Un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis fatigué.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
À 4101 mètres, toutes les autres montagnes sont à nos pieds. Il n'y a que le ciel au-dessus. Si bleu et si profond qu'on devine la nuit étoilée qui se cache derrière. L'éternité. C'est l'histoire de plusieurs ascensions et de plusieurs descentes dans les Alpes. Les sommets s'appellent la Dibona, le Râteau, la Pointe du Vallon des Étages, dans le Massif des Écrins, dans les Hautes-Alpes et en Isère. Ceux qui les gravissent s'appellent la Roche-Joubert, Vernet, Sampé et Rochette. C'est l'histoire d'un adolescent de Grenoble qui rencontre tour à tour la montagne et le dessin. Il se forme auprès d'elle, il suit ses voies et il éprouve ses morsures. Jean-Marc Rochette, votre album de bande dessinée Aile Froide, Altitude 3954 retrace votre jeunesse dans les Alpes et tisse ensemble le dessin et l'alpinisme. Il est publié aux éditions Casterman. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Aile Froide, c'est le nom de cette bande dessinée et c'est aussi le nom d'une série de sommets dans les Alpes. Est-ce que vous pourriez nous les décrire succinctement ?
Aile Froide, c'est la face nord qu'on voit au fond de la vallée du Vénéon, de la Bérarde. On voit une seule dans ce village-là, on voit qu'une seule face nord, puisque la Mèche, par exemple, qui est une des montagnes les plus connues, on la voit pas, et les Écrins, on la voit pas. Mais donc, la face nord de l'Aile Froide, je la vois au fond. Et elle est très haute, elle fait 1000 mètres de haut. Et elle a une caractéristique, c'est qu'elle est encore très glacée, même maintenant. Donc, il y a deux voies, et une qui s'appelle la Devijarazuti, et puis une autre qui s'appelle la voie des plaques. Et donc, enfant, je regardais ces deux voies comme cette espèce de forme de Graal que je rêvais de grimper, quoi.
Et tout enfant, vous rêviez déjà de grimper cette montagne?
À partir du 14-15 ans, je pense que ça me fascinait, parce que j'avais l'impression que c'était un lieu d'aventure absolu, à une époque où il n'y en avait plus trop, en tout cas. Et donc, j'ai regardé ça, et puis ça a été effectivement... Elle est très centrale et puis l'approche est difficile pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refuge au pied, donc c'est déjà une forme de petit Himalaya pour y aller. Et la marche d'approche est déjà au moins 4-5 heures dans des pierriers un peu raides, avec des traversées. Enfin moi c'est une aventure quoi, et je le savais que c'est une aventure.
Et Aile Froide, ça apparaît très très vite dans votre bande dessinée comme un objectif. En tout cas, c'est construit comme ça. C'est-à-dire cette bande dessinée retrace toute votre enfance et on vous voit très vite rencontrer cette montagne-là. Est-ce que c'était important pour vous de la mettre au centre ?
Techniquement, je voulais que le lecteur ait un MacGuffin, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'il se demande si les enfants vont faire cette face nord et qu'est-ce qui va se passer. Donc le lecteur sent qu'il y a du danger tout de suite, très vite, et ils savent que ces deux enfants ou ces deux adolescents vont aller se lancer dans un truc encore plus difficile. Donc il y a aussi le lecteur, il se demande quand est-ce qu'ils vont y aller, et visiblement il va se passer quelque chose de très grave. Enfin, c'est plus ou moins dit ou senti par le lecteur, quoi. Et puis, il s'avère que le premier sommet que j'ai fait, donc le Coolidge avec mon camarade Sampé, on la voit puisque c'est juste en face, quoi. Et donc, quand on est monté dans cette voie dite normale, donc relativement facile mais assez haute, très belle, en face on la voit et là on est vraiment dessus, donc on peut vraiment la regarder. Et le lecteur aussi, puisque je l'ai dessiné pour que le lecteur s'en imprègne. Donc il s'en imprègne visuellement, et puis il y a ce mot en plus, Aile Froide. Il s'avère que c'est Aile Froide que je voulais faire, mais il s'avère que le mot est très beau. Aile Froide, il y a un côté un peu poétique, mais une aile froide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu peur quand même. Ouais, je pense que le lecteur se demande quand est-ce qu'on va la faire, voilà.
Il y avait cette idée dès le départ de créer une attente chez le lecteur.
Ah oui, c'était clairement, et je le relance de manière parfois fictive. Par exemple, quand on revient d'avoir fait la voix dans la Dibona, on a fait les deux Madiers dans la journée, et qu'on revient devant l'église de la Bérarde, il y a deux camarades, la Chardin et Creusot, et on leur dit, la face nord, ça sera pour nous. Donc en même temps, je relance au lecteur, s'il l'avait oublié, je lui redonne de la face nord d'Aile Froide. Et d'ailleurs, c'est une vérité, parce qu'une fois avec Sampé, on avait fait la voie de l'Arc de Cercle dans le Gerbier où s'est tué Lionel Terray, et au pied il y avait un type qui s'appelait le facteur, c'est un facteur de Dijon, et qui avait fait la face nord d'Aile Froide par Devijarazuti. Donc la première chose qu'on lui a demandé, comment c'est et tout ça, et puis il nous a dit ouais, mais vous pouvez la faire, c'est pas si difficile, c'est haut, c'est glacé. Enfin bref, c'était une espèce de mythologie Et donc, voilà, donc ça, c'est pas dans le livre, mais moi, je m'en souviens très bien, cette petite discussion avec ce facteur-là de Dijon.
À quel moment vous vous êtes dit, je vais retracer cette histoire-là en bande dessinée?
Ben, quand je suis arrivé à Paris en 78, je grimpais encore un peu, puis j'essayais de parler de mes histoires de montagne avec Martin Véron, Pessillon, etc., avec les camarades, Villemain et tout. Et ça laissait tout le monde très froid, hein. C'est-à-dire que c'était une époque, c'était du post-punk, il y avait un petit côté cynique. Donc j'ai tout abandonné. Et puis, une quarantaine d'années après, j'ai discuté avec mon éditrice, Christine Cam, je lui ai raconté comme ça des petites anecdotes, et c'est elle qui m'a dit, mais c'est pas rien, c'est quand même des histoires qui peuvent intéresser un lectorat. Donc j'ai commencé à penser à ça, quoi. J'ai mis ça en forme. J'en ai parlé à Olivier Boquet, avec qui j'avais travaillé, savoir s'il voulait s'amuser à faire ça, qu'on fasse ça ensemble. Donc je lui ai raconté, on a écrit à deux, j'attendais que le moment soit propice, et puis quand j'ai senti que le bouquin était bon, j'ai dit à mon éditrice, ok, là je suis d'accord, je vais signer et on va le faire.
Et la montagne, vous dites que pendant longtemps là, ça n'a pas été un sujet qui intéressait les gens?
Ah non, non, pas du tout. S'il y avait un côté, on n'était pas dans ce rapport. Bah, je crois que ils savent pas. Et puis surtout, il n'y a pas d'image qu'on peut mettre sur. Quand on dit j'ai grimpé un couloir nord-est des bancs, c'est 300 mètres de glace. Il y avait des pierres qui tombaient. Je pense que pour les gens avec qui je parlais à l'époque, ils mettaient pas d'image vraiment. Alors après, je suis obligé de dire oui, mais 300 mètres, ça fait la hauteur de la Tour Eiffel, donc par exemple, la face nord d'Elfroide, elle fait trois Tours Eiffel les unes sur les autres. Alors là, déjà, ça commence à donner plus d'images, et c'est pour ça que la BD c'était bien, parce que là, il y avait de l'image, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que les lecteurs accrochent plus que si ça avait été un roman, parce que l'alpinisme appelle l'image, quoi. Pareil pour le ciel bleu, quand on dit c'est un ciel bleu, là j'ai mis longtemps à trouver le bleu que je voulais mettre dans le ciel. J'ai été le chercher, j'ai cherché du pastel, et puis jusqu'à que j'ai trouvé cette espèce de bleu presque noir dont qui est effectivement un des marqueurs des ciels de montagne. C'est-à-dire que quand il fait beau, on n'a pas un ciel layette, on a un ciel vraiment d'encre, quoi, un bleu d'encre.
On voit la nuit derrière.
Voilà, exactement, là, le ciel noir est pas loin derrière, quoi. Et donc c'était tout. Des petits problèmes comme ça à trouver, techniques, et puis d'un seul coup j'ai été complètement pris par l'histoire. On a rajouté, au départ c'était pas prévu, mais j'ai rajouté le rapport avec ma mère qui se sont imposés, et puis l'histoire s'est formée comme ça, d'une manière comme ça se fait toujours, un petit peu sans soi, quoi.
Pointe du Vallon des Étages, 3564 mètres, face sud, Michel Chevalier, Gaston Rébuffa, 30 mai 1943. Escalade intéressante. Rocher demandant une grande expérience de l'oison. Hauteur 500 mètres. D. Conseiller.
Alors, t'es prêt?
Il va pleuvoir.
Mais non, regarde, ça va se découvrir.
Ah, c'est laiteux là-bas.
Ah, c'est rien, ça. C'est de la dissipation des brumes matinales, comme dit Madame Météo.
Il fait pas assez froid. Ça va se couvrir, c'est sûr. On va se prendre la saucée.
On va pas rester là toute la journée à attendre qu'il pleuve. Je te dis qu'il va faire beau.
Je te parie 100 balles que non.
Tenu.
Bon bah tu me dois 100 balles.
Bah ça va se découvrir, je te dis.
Mais il faut descendre, c'est trop dangereux.
Mais non.
Mais quoi mais non? Tu veux qu'on se viande? Je t'avais dit qu'il allait pleuvoir, t'as pas voulu m'écouter. Alors maintenant, tu m'écoutes, on tire des rappels FISA et on se sort de ce merdier. Regarde le nord d'Elfroide. Il est déjà plâtré, couvert de neige.
Un jour on y sera.
Ouais, mais pas sous la tempête.
Jean-Marc Rochette, on en sent ici une lecture de votre bande dessinée Elfroide, altitude 3954, par Cédric Fuentes, Samuel Bernard et Oriane Delacroix. On entend ici donc ce compagnonnage que vous avez eu avec cet adolescent qui était votre ami, c'est Sampé. Et on voit aussi la place très très prégnante qu'a pu occuper l'amitié dans l'escalade et dans la pratique de l'alpinisme. Notamment par le fait que vous vous tenez tout le temps l'un à l'autre par une corde. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous de reproduire, ce parcours d'amitié?
Surtout avec Philippe, hein, parce que Philippe c'était quelqu'un qui ne cherchait pas la compétition en montagne. Après j'ai grimpé avec des grimpeurs dans lequel il y avait un rapport beaucoup plus compétiteur, hein, parce que c'était déjà un peu professionnalisme. Tandis qu'avec Sampé c'est vraiment de l'amitié et une espèce de forme à la Mark Twain, un peu d'enfant qui découvre le monde. Et puis pour la corde, bien sûr, c'est la chose la plus importante en alpinisme. Parce que c'est celle qui vous sauve la vie. Par exemple, Philippe Sampé, on avait fait une seconde dans l'Oisans, et je me souviens très bien, il y avait pas de clous, donc c'est moi qui plantais des clous, donc j'ai planté une première cornière américaine, et on sent au bruit, ça fait ding ding ding, ça veut dire que là le clou est bon. Et malheureusement, plus haut, il y a plus, je suis tombé, et j'ai fait une chute, je crois, de 25 mètres. Et donc, c'est Philippe qui m'a rattrapé, ça l'a fait monter au relais. J'étais sous lui, j'ai pris une tarte terrible, et je voyais, il gueulait comme un veau, il disait, oh, ça m'a remonté de 3 mètres. Et donc, c'est là, pour le coup, il m'a sauvé la vie, Philippe. Et donc, la corde, mais des fois, la corde, c'est aussi psychologique. Par exemple, dans certains couloirs, je sais pas si les gens vont voir, mais des fois, on grimpe à corde tendue. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est devant et l'autre est derrière, la corde entre les deux. Le problème, c'est que s'il y en a un qui tombe, il y en a tué deux. Parce que, et donc maintenant, ça se fait plus. Les gens dans les couloirs ne grimpent plus à corde tendue. Ça, on enlève la corde. Il vaut mieux, puisqu'elle sert plus à rien, autant pas la mettre. Mais nous, on grimpait toujours comme ça, avec cette espèce de corde, qui était plutôt une assurance fictive, parce que, il fallait pas tomber, quoi. Mais la corde, ça ne sert, bon, c'est difficile à expliquer comme ça pour les gens qui connaissent pas, mais ça sert que quand il y a une assurance, c'est-à-dire, ou un piton, ou quelque chose entre nous. S'il y a rien, c'est psychologique. Alors pour le coup, pour votre question, c'est vraiment une assurance psychologique. Voilà, on fait confiance à l'autre, et puis...
Mais c'est aussi, oui, une histoire de vous parler de Mark Twain, mais d'amitié que vous retracez avec Philippe Sempé. On entend aussi là, dans le passage qu'on vient d'entendre, quelque chose de l'ordre de l'affrontement aussi qui a lieu. C'est pas toujours évident, ce moment, parce qu'on est confronté au risque. Là, il y a des conditions météorologiques qui sont compliquées, et il y a aussi vous reproduisez aussi des scènes de disputes et d'affrontements.
Oui, c'est vrai qu'il y a déjà, là c'est la météo. À l'époque, on n'avait pas de météo, donc on faisait de la météo aux doigts mouillés, hein. Le matin on se levait, s'il fait chaud c'est pas bon signe, et tout ça. Et moi j'étais quand même quelqu'un d'assez prudent finalement, et je voyais toujours le pire, je me disais qu'il va toujours faire mauvais. Donc là, il s'avère que dans la bande dessinée, c'est moi qui ai raison, mais plein de fois aussi, j'ai dit qu'il faisait mauvais et puis il faisait beau. Donc, il y avait toujours cette espèce d'antagonisme entre l'optimiste et le pessimiste. Moi, j'étais toujours un peu le pessimiste et Philippe était toujours l'optimiste. Il allait toujours faire beau et moi, je pensais qu'il allait faire mauvais, quoi. Voilà. Quant à lui, c'était quand même quelqu'un qui était très solaire dans l'histoire. Donc, il voyait pas trop le danger et puis tout se passait bien. D'ailleurs, avec lui, toujours, c'est toujours très, très bien passé, quoi.
Puis il fait beaucoup de blagues.
Oui, c'était un type amusant. C'était un espèce de comique, enfin je sais pas, dans les personnages, dans les couples, il y a toujours l'Auguste et le clown blanc. Là, on pourrait dire que le clown blanc c'était moi et l'Auguste c'est lui. C'est dans l'histoire là, pour le coup, c'est celui qui allège les situations, et moi je suis un peu plus de d'angoisse, on va dire. Lui il était plus léger, quoi.
Et vous laissez aussi transparaître une chose qui peut exister, c'est les formes de compétition. Quand parfois vous grimpez avec des gens qui, là, eux, sont plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émulation et de recherche de l'exploit.
Bah, en
là,
deuxième,
ça devient plus dangereux.
En deuxième partie, là où j'ai commencé à grimper avec des amis qui voulaient devenir guides ou qui voulaient se faire connaître. Dans le cas de Zartarian, par exemple, c'est quelqu'un, je crois, qui avait des ambitions d'être un très bon grimpeur. Et ben là, effectivement, on est plus dans la compétition. Hein. C'est là qu'on s'entraîne, on essaye de faire des cordées. Dans la cordée elle-même, il y a un peu de compétition. Puis après, il y a de la compétition entre cordées. Les gens veulent se faire connaître parce que ça veut dire qu'après, ils sont plus connus, ils ont une clientèle un peu plus prestigieuse, etc. Après, on quitte un peu le côté poétique de la montagne, de l'amitié, pour entrer dans un truc qui commence à devenir professionnel, quoi, avec toutes les contradictions, enfin, ou contradictions où ça devient un métier, quoi. Par exemple, La Roche-Joubert, la deuxième partie, il y a beaucoup de voix avec lui. Alors lui, il avait clairement une ambition. D'ailleurs, il est devenu guide il est devenu un très bon guide, hein, mais, c'était amusant parce que lui voulait toujours attaquer en tête, quoi. Les voix, il fallait que ça soit lui qui fasse la première longueur en tête. Moi, ça me gênait pas trop. Je laissais faire après.
Et comment on représente tous ces phénomènes qui sont des phénomènes aussi de suspension, enfin le fait d'être attaché? Quelles questions vous vous êtes posées dans la représentation de ce geste, de cette position-là sur la montagne à la verticale?
Bah déjà, c'est des choses que je connais très bien parce que j'ai grimpé quand même vraiment beaucoup, donc j'ai ça en moi, quoi. J'ai les positions, je connais le poids du corps et tout ça. Et puis j'ai fait beaucoup de doc, hein, j'ai cherché beaucoup de documentation, alors ou les vieilles documentations de l'époque avec les vieux rappels, parce que maintenant on descend plus, c'est amusant parce que la montagne maintenant ils ont des descendeurs, mais nous on faisait des rappels à l'épaule, c'était différent. Et donc il a fallu que je retrouve des vieilles façons de grimper. Et puis pour les suspensions, c'est pareil. On avait une grimpe qui s'appelait artificielle, c'est-à-dire on se tirait beaucoup au clou, nous, alors que maintenant ça se fait plus du tout, quoi. Et donc c'est une autre façon de grimper. Et puis c'était important pour moi pour que on retombe dans l'époque de la grimpe des années 70, qui était la fin de l'époque, on va dire, héroïque. Il y a eu l'époque de la bande Annapurna, premier 8000, Lionel Terray, les conquérants de l'inutile, tout ça. Puis moi, j'étais un peu élevé par cette littérature. Et puis après, est arrivé l'alpinisme moderne, sportif, avec Edlinger, Béraud, Destivelle. Enfin, il y a tout un nombre qui étaient un peu plus jeunes que moi, mais qui eux ont pris ça au sérieux. Par exemple, nous, on n'avait aucun entraînement spécifique, voire même on fumait des cigarettes, voire même on pouvait boire du vin rouge le soir. Enfin, il y avait un côté beaucoup plus paysan. Alors qu'après, quand sont arrivées toutes ces jeunes générations, ils ont monté le niveau. Hein, ils sont devenus beaucoup plus forts. Et donc je voulais bien ressentir ce côté un peu amateur, un petit peu empirique de la grimpe, quoi.
Et vous diriez que pour vous l'alpinisme ça n'a pas été un sport ?
Alors pour moi c'était clairement pas un sport, hein, mais et ça l'est devenu après. Voilà, c'est devenu clairement un sport avec des entraînements. Et je me rappelle la première fois que j'avais vu du Edlinger, il faisait des grands écarts par exemple, il faisait des pompes. C'était pour moi c'était absolument incongru, quoi. C'était quoi cette histoire de grands écarts et de pompes ? Nous pas du tout. Moi c'était romanesque ce qui m'intéressait. J'aimais lire les histoires de Lachenal et de Lionel Terray quand ils parlaient des voies. Ils mettaient toujours beaucoup d'adjectifs dedans, quoi. Ils parlaient de la montagne comme des poètes ou comme des romanciers, quoi. Et c'est ça qui m'attirait plus que le côté purement physique, on va dire, du truc, quoi.
Avant, c'était quoi ? L'alpinisme, c'était la tauromachie. La tauromachie, c'est quoi ? C'est, allez, au départ, une brave bête qui ne demande rien à personne, qui a fait de mal à personne. Cette bête, on la met dans une ambiance où elle est terrorisée, du bruit, etc. On la blesse. On fait en sorte qu'elle devienne méchante, dangereuse. Et plus l'animal est dangereux, plus celui qui la tue
va être
courageux, ouais. Et va susciter l'admiration. Eh bien, on fait la même chose pour la montagne. La montagne nous raconte combien de morts il y a eu avant, comment elle est dangereuse. Et tout d'un coup, da-da-dum, arrive l'alpiniste qui va réussir à mater cette montagne, à être plus fort que cette montagne. Et ça, c'était la littérature. On retrouve ça dans la littérature.
On parlait de conquête, d'ailleurs.
La conquête, il peut y avoir une notion amoureuse dans la conquête. Victoire, c'est pas une notion amoureuse. Victoire, c'est la conclusion d'un affrontement. Et ça, c'est exactement ça. Et Gaston Rébuffat, qui est un guide de la compagnie de guides de Chamonix, et qui a beaucoup écrit, beaucoup montré, beaucoup photographié, a changé de regard. Et lui, il a introduit une notion d'élégance. On voit, avec le pull vert jacquard, on voit la corde de Gaston Rébuffat qui est toujours bien verticale. Et il explique qu'il se bat pas contre la montagne. Il est dans une espèce d'harmonie qu'il a souhaité. Il y va en montagne parce qu'il a envie d'y aller. Il en revient content d'y avoir été. Et quand il est en montagne, il écoute, il le partage. Il est capable de nous raconter le bruit d'un piton qu'on enfonce selon la nature du rocher, le nuit de bivouac, etc. Et faire partager cela sans faire peur. Et ça, c'est une notion très nouvelle et qui a été, à mon avis, un peu précurseur de cette évolution dont je vous parlais, qui est un petit peu le rapprochement entre l'escalade moderne telle que se pratique aujourd'hui, même en haute montagne, et les sports de glisse, où on y va par pur plaisir. Et c'est un mot qu'on ose prononcer maintenant en montagne.
Jean-Marc Rochette, c'est la voix de Yves Balu qui parle de la question de l'alpinisme et notamment de la figure de Gaston Rébuffat que vous citez dans votre bande dessinée Aile froide. Et vous dites dans la bande dessinée qu'ils sont des grimpeurs qui sont mythiques et vous les comparez à Achille et Hector. Il y a presque déjà l'idée que c'est des matrices de fiction, ces personnages-là.
Oui, Achille et Hector, parce que c'est les héros Homère. Et donc, pour moi, c'était exactement pareil. En plus, ils avaient des noms qui sonnaient comme ça. Quand je parle de Victor Shaw, par exemple, ou de Narcisse Candeau, qui est toujours vivant, ça résonnait en moi, je vous dis, chanson de Jess. Et les dragons, c'était des faces. Et effectivement, le monsieur là parle de. Il y a eu un moment où là, c'était une grimpe héroïque, et puis après il y a eu une grimpe sportive. Moi, je pense qu'on a été entre les deux, une espèce de grimpe légère où il y avait beaucoup de. Moi, je prenais ça comme chaque fois que je me levais le matin, j'avais l'impression que j'allais vivre une aventure extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment tellement cherché la difficulté. La preuve, c'est que j'ai jamais fait de première. J'aurais pu, mais ça m'a pas intéressé. J'étais plutôt dans une espèce de de promenade, en fait, et une chose qui comprend, que moi je prenais en compte et que je prends toujours, c'est l'élévation. C'est quand on marche, il y a une chose, mais quand on grimpe, la perspective bouge beaucoup plus vite. C'est-à-dire quand on met les mains, les perspectives se creusent et c'est pas forcément très dur. On perçoit le monde différemment quand on le parcourt avec les pieds et les mains. Je sais pas, peut-être qu'on se sent plus proche de nos ancêtres, les singes, mais il y a d'un seul coup, je me sens bien. Je vois à quoi me sert mon corps dans son intégralité. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'est ce côté-là me paraît évident. Cet été, on a refait une voix avec mon cousin qui s'appelle la voix des plaques, et je me suis tout de suite senti comme une forme de paradis. C'est comme si c'est le moment où je suis là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a le temps s'arrête un peu. J'ai l'impression que ça va tout le temps durer, quoi. Et après, on arrive au sommet. Il y a une espèce de bonheur absolu de voir les écrins à ses pieds. Et puis, on redescend. Là, c'est autre chose. La descente, ça redevient le moment un petit peu plus... Il faut faire attention. On réatterrit. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, c'est vrai qu'ils parlent de plaisir. Mais je pense qu'à l'époque, on parlait de plaisir aussi. Sans entraînement, voilà. Donc, je pense qu'on était vraiment dans le...
Et est-ce que vous faites un lien entre l'implication de votre corps dans l'escalade et l'implication de votre corps dans le dessin?
Alors, surtout en peinture, surtout quand je peins, mais il y a aussi une chose, c'est que quand je alors c'est peut-être spécifique à moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui l'ont, et beaucoup de peintres aussi, c'est que quand on se lance dans une paroi ou dans une longueur, on a l'impression de jouer sa vie, on la joue de fait, même si on a une technique et s'il y a des points d'assurance, mais on a une espèce de présence au monde où son corps est là et qu'il dit attention. Et puis quand je dessine ou quand je peins, c'est un peu pareil. J'y mets une espèce d'intention de vie ou de mort. Si je rate un dessin, pour moi j'ai une impression terrible, quoi. Donc on s'investit. J'imagine que ça doit être vrai aussi pour les écrivains et pour les musiciens, mais il y a un investissement que je ressens dans l'art et que je ressens dans l'alpinisme. Dans l'alpinisme, c'est un fait, et je pense que dans l'art, c'est un peu plus psychique, parce qu'en fait, on risque rien, mais on se met la pression.
Et lui, il parle aussi de comparaison entre la pratique de l'alpinisme et la tauromachie. Comme si la montagne était une forme d'animal, ou qu'en tout cas, il y a une confrontation avec une puissance, en tout cas, si elle n'est pas animale, là, qui est une puissance brute. Et est-ce que dans ce rapport-là, il y a quelque chose qui a aussi à voir chez vous avec le dessin?
Bah, en tout cas, le problème de la tauromachie, c'est qu'on fait souffrir, un être qui est puissant, qui est beau, et puis on le met à mort. Dans l'alpinisme, non, on fait souffrir rien du tout. On est sur de la matière, quoi. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que le taureau, comme la face nord, il dégage de la puissance, quoi. Il dégage de la force. Et pour point de vue du dessin, quand Picasso dessine ses taureaux, il veut rendre cette espèce de force, de puissance. Je pense que quand j'essaye de dessiner des montagnes, j'essaye aussi de trouver ces espèces de force qu'on a dans les formes tectoniques, dans cette architecture. Ça, c'est ce qui m'a intéressé dans la montagne, à la dessiner. En tout cas, c'est cette espèce de puissance qui est dedans et qu'on recherche. Alors, dans mon cas, je le recherche avec du noir et blanc, avec des couleurs, mais c'est surtout des tensions, en fait. Hein, c'est des tensions parce que, en fait, les montagnes, c'est pas du tout un objet qui est mort. C'est un objet qui est vivant, qui bouge. Mais on a simplement, nous, on est trop lent dans notre vision. Comme on fonctionne sur 100 ans et que eux, la montagne fonctionne sur 1 million d'années. Mais si on avait l'œil à son rythme, on verrait qu'elle bouge sans arrêt, qu'elle se contracte, qu'elle respire, qu'elle s'écroule, qu'elle pousse. Et en fait, quand on dessine, j'essaie de donner un peu cette vie, de sentir cette vie qu'il y a derrière cette apparence. Ce côté statique, mais qui n'est qu'apparent, en fait. Derrière, d'abord, on l'entend craquer sans arrêt. Alors, c'est des petits mouvements, mais des fois, c'est des gros mouvements. Par exemple, un exemple de grand mouvement, c'est qu'au Dru, il y a une voix qui avait été faite par Bonatti. La fameuse voix Bonatti au Dru. Et elle n'existe plus. C'est-à-dire que toute la paroi est descendue. Alors, c'est une légende. Je dis que c'est sûrement faux, mais je veux dire que c'est vrai. Le mois où Bonatti est mort, il y a quelques années, la montagne s'est écroulée, quoi. Donc, c'est peut-être pas le mois, c'est peut-être pas l'année, mais en tout cas, c'était pas loin.
Donc, elle pouvait pas survivre.
Elle pouvait pas survivre à son créateur, quoi. D'ailleurs, créateur, c'est assez juste, parce que quand Bernard Ramy, qui a écrit la postface, me disait une chose très juste, c'est que celui qui ouvre la voie, c'est comme un compositeur. Il regarde la paroi, et dedans, il va découvrir une voie, il va créer une voie, quoi. Et donc c'est le créateur, le compositeur de cette voix, et on dit que ceux qui suivent, ceux qui font les seconds et tout ça, c'est des interprètes en fait. On interprète la scission de l'ouvreur, mais nous on en est que les interprètes. Alors on peut l'interpréter avec grâce, c'est-à-dire on va vite, on est bon, on se trompe pas, et on rend une belle partition. Ou alors on peut la saloper, hein, comme quelqu'un qui va saloper du bac. Hein, c'est parce qu'il va planter trop de clous, il va se tromper, il va gueuler, ils vont s'injurier. Enfin bref. Mais cette idée de créateur et de compositeur, je trouve que c'est de compositeur et d'interprète, je trouve que c'est une très jolie image qu'a eu Bernard Ramy.
Et ça en donne une vision artistique.
C'est clairement artistique. Il y a des voix, on dit elle est belle, celle-ci est belle, celle-là est moins belle, la ligne est belle. Par exemple, la face sud de la Mèche qui a été créée par un type qui s'appelait Pierre Alain dans les années 30, qui était un blozard, un parisien, elle est particulièrement belle parce qu'elle est droite. C'est-à-dire que vous avez le sommet et la voix, elle suit une pierre qui tombe. Mais malgré tout, il a choisi l'endroit le plus facile dans la voix. Il n'a pas fait ça pour la violer, il a suivi la structure de la face sud de la Mège, et il a choisi l'endroit le plus facile, et c'était le plus droit. Donc ça, c'est pour ça que c'est une voix magnifique. C'est comme pour les mathématiciens qui trouvent la formule parfaite, quoi. Alors il y a des voix qui sont plus complexes, mais ça c'est des voix droites parfaites. Il y en a plusieurs comme ça, et notamment la Bonatti, dont je vais en parler aujourd'hui, quoi.
Râteau, 3809 mètres, face sud. Est. Parti plus tôt que moi, trois cordées faisaient danser leur frontale sur le sentier.
Excusez-moi, pardon.
Je les ai vite laissés derrière moi pour m'engager sur le glacier. J'enfreignais la première règle d'or de l'alpinisme, ne jamais marcher seul sur un glacier. Les crevasses couvertes sont autant de pièges mortels qui n'attendent que les jeunes imprudents pour les engloutir. Le froid était mordant, tout semblait figé. La neige était comme de la pierre. Les ponts de glace étaient solides. En contrebas, les trois cordées marchaient sur les traces de la voie normale. Mais moi, je sortais des sentiers battus. J'étais un aventurier.
Ah, et merde !
Ma lumière se perdait dans les profondeurs glacées d'un noir d'oubliette. Engagé comme je l'étais, descendre ou monter était aussi dangereux. Alors pourquoi faire demi-tour ? La Rimay, dernière crevasse et ultime défense du glacier, fut angoissante. Le souvenir de sa petite sœur me glaçait encore le sang. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à monter au sommet, mais j'y suis arrivée, avant le soleil, et j'ai pris feu, seule face à la naissance du monde.
Un des plaisirs que nous donne la montagne, c'est un plaisir cosmique et sidéral. C'est assez extraordinaire de voir la boule de feu qui s'en va d'un côté, qui tombe derrière l'horizon à l'ouest par conséquent, qui est toute la nuit, toutes les années, les étoiles sont là. Si elles brillent, l'alpiniste est content. Si elles brillent trop crûment, trop fort, c'est qu'un orage est en marche. Au tout petit matin, on guette vers l'est. On participe, si je puis dire, à ce grand voyage de la Terre autour du Soleil. On guette vers l'est, les montagnes donc, de l'Orient qui commencent à se colorer. Et puis le Soleil qui est là et qui, d'un coup, généreusement, vient nous réchauffer. C'est important, c'est capital pour nous.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre.
Jean-Marc Rochette, on entend ici l'extrait d'une deuxième lecture de votre bande dessinée « Elle froide ». Et juste après, une archive de Gaston Rebuffa en 1955 qui parle de ce moment-là que vous décrivez, qui est celui de la découverte de la naissance du monde, tout simplement avec l'apparition du soleil quand vous arrivez en haut du sommet. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette voix, cette archive-là ?
Ah ben, Gaston Rebuffa, c'est quelqu'un qui m'émeut complètement. C'est d'abord, il a une voix magnifique, il a un français qui est pur, enfin un français, je sais pas, on parle plus français comme ça. C'est un des derniers qui ose la poésie comme ça, sans aucune retenue, parce qu'il parle comme ça, quoi. Il parle du soleil, il parle du vent, il parle des... Je suis totalement. D'ailleurs, on dit que nous, on avait un bouquin qui s'appelait Les 100 plus belles courses de l'Oison, de Gaston Rebuffa. Et c'était notre évangile. D'ailleurs, je le regardais, alors on commençait les plus faciles, et puis il y avait la dernière, la plus dure. Donc l'idée, c'était de suivre le parcours de Rebuffa, quoi. Et c'est lui, d'ailleurs, qui dit que la face sud de la Mèche, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'une des plus belles voix de l'Oison. C'était l'esthète, hein, absolue. La façon dont il écrivait les voix, par exemple, dans ses 100 plus belles courses de l'Oison, c'était extraordinaire. Ça donnait envie, c'était... Alors je les cochais, je veux dire, ça j'ai fait, bon alors ça j'ai fait, la voie des plaques à Pointe-Torrent j'ai fait, bon après Pillé Crando, ça j'ai fait, après Couloir du Diable, ah ça me fait peur, Couloir du Diable, rien que le nom ça me fait peur, mais c'est, je l'ai fait aussi, etc., etc. Et donc finalement j'avançais, et puis j'avançais dans le livre, et il devenait, les voies devenaient de plus en plus dures. Et après, on arrivait vers la face nord, face nord d'Elfroide, face nord de Lolland, la cousine de maison. Alors celle-ci, c'était la dernière, c'est la plus dure. Celle-là, elle terrifiait tout le monde. En plus, il y avait des histoires qu'il y a eu dedans. Et donc, c'est tout ça, c'était l'espèce de grand prêtre Rebuffat qui nous donnait tout ça, quoi. Il a fait les 100 plus belles courses aussi de Chamonix, mais moi c'était plutôt son plus belle course de Loisan, quoi. Et donc je m'en souviens, d'ailleurs je l'ai toujours ce bouquin, il est dans un état lamentable, et je continue de temps en temps, là si j'ai un petit coup de blues, il suffit que je rouvre le bouquin de Rebuffat, et puis là je replonge dans ma jeunesse aussi sec.
Dans la lecture qu'on vient d'entendre, il y a aussi ce moment où vous accédez à quelque chose comme un moment de solitude et de plénitude totale. Comme si, voilà, cet accès à la montagne et au soleil qui se lève était aussi une expérience métaphysique ou poétique évidente.
Ah bah là, dans ce cas-là, en haut du râteau, j'étais très vite, comme je le dis, je suis arrivé au sommet. Le sommet du râteau est assez paisible, donc on sait que la descente sera paisible aussi, donc aucune angoisse particulière. C'est pas comme quand on est dans un sommet et puis qu'on sait que la descente risque d'être scabreuse, comme on dit. Donc on profite pas trop. Mais là, la descente, elle est très très facile. Et surtout, ce que je me souviens, c'est que je me suis éclairé par la tête. C'est-à-dire que j'étais plus haut que le sommet, moi. Donc ça a commencé par ma tête, puis mon corps, puis mes pieds, et puis j'ai vu j'ai eu une espèce de relation intime avec le soleil à ce moment-là, quoi. Et j'étais très jeune, c'était physique, quoi. J'ai senti un truc, un truc qui dure depuis que le soleil est là et qui durera jusqu'à ce qu'il soit là. Et on fait partie intégrante de l'histoire, là. Et ouais, c'était en plus, bon, après il y a la fameuse histoire où quand je suis redescendu par la voie normale, je pensais que toutes les cordées allaient m'admirer parce que j'étais un petit jeune là qui avait fait un truc, et je me suis fait insulter par tout le monde, par les guides ils avaient bien raison, parce que ce que j'avais fait, j'aurais pu me fracasser au fond d'une
crevasse. Vous êtes parti seul.
Voilà, j'ai cassé un truc et j'aurais pu me fracasser au fond d'une crevasse, ce qui est une des morts les plus terribles. Donc ils ont bien eu raison, mais je me souviens de cette espèce de passage de la gloire à la honte assez rapidement, à peu près en un quart d'heure, quoi.
C'est une bande dessinée aussi qui cultive beaucoup le contraste entre justement le feu et la glace. Il y a cette idée, quand vous arrivez au sommet, vous prenez feu, alors que vous êtes dans un climat qui est un climat froid, où les couleurs chaudes alternent avec les couleurs vives. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu construire aussi?
Bah, c'est-à-dire que effectivement, c'est très marqué ce côté face nord, ombre et lumière. Par exemple, pour passer d'un endroit plus facile d'accès, qui est le col de la Temple, donc on monte côté ouest, et donc on est dans le froid et dans le gris acier, le bleu. Et puis quand on arrive au col de la Temple, bam, on se prend. Il y a le soleil. Souvent, il est déjà là. Et de l'autre côté, tout est jaune. Et donc j'ai essayé de le rendre, en tout cas graphiquement. C'est très intéressant parce que les contrastes sont tellement puissants entre cette espèce de orange et de bleu sombre, c'est des complémentaires purs, et donc le public, lui qui lit, enfin le lecteur lit ça, il s'en aperçoit pas, mais je crois qu'il y a des cases dont on me parle, donc ça va être des cases qui touchent les gens. Et puis surtout, j'ai fait très attention que tout soit vrai. C'est-à-dire que quand en montagne, je sais que je suis lu par des alpinistes, et puis je suis lu aussi par des guides. Et j'ai eu des retours des guides de Val-Louise ou de trucs. Et tout est juste. C'est-à-dire que tout est juste au tournant près, au caillou près. Ça, j'y tenais. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas, il va vous arriver au sommet. Il faut pas que le soleil se lève à l'ouest, quoi. C'est par exemple. Donc si, j'ai vraiment essayé. Pour moi, ça a été un grand plaisir à faire, malgré le fait que ce soit très long et que ça m'a demandé beaucoup de... Et surtout, j'avais peur qu'il y ait une répétition dans les voix. C'est-à-dire qu'on soit toujours... Et j'ai fait attention que dans chaque voix, il y a un sujet. Par exemple, dans le couloir nord-est des bancs, ce qui m'avait marqué en particulier, c'est que c'était de la glace et qu'il a fallu que je trouve le système pour rendre la glace avec du pastel et de l'aquarelle. Mais il y avait une deuxième chose qui m'avait marqué, c'était le bruit des pierres qui tombent, parce qu'on était parti trop tard, et donc on était dans une paroi bien bien raide, et d'un seul coup on a entendu les pierres partir, et puis les pierres ne sont arrivées dessus. Et ça fait un bruit bien particulier, parce que ça fait comme des gros frigos qui tournent dans l'air, ça fait... Ça vous arrive dessus, cette espèce de bruit-là. Et ça, c'est impossible à rendre en radio, ça marche bien. Mais par contre, en bande dessinée, ça marche pas. Et donc, il a fallu, là, ça ne pouvait marcher que par l'écrit. Donc, j'ai trouvé le mot feulement. Là, bande dessinée avait sa faiblesse. Mais où là, où l'écrit pouvait un petit peu m'aider. Donc, ça, c'était pour les chutes de pierre. Dans une autre voie, ça a été le rage. Dans une troisième, c'est la grande voie où tout se passe bien, donc c'est le bonheur. Vous l'avez lu au début, c'est l'éternité. Et puis dans une dernière, c'est la chute. C'est-à-dire, donc, je pense que le lecteur, à chaque fois, il a une petite expérience ou une expérience qu'on peut vivre ou que tout grimpeur a vécu. Voilà. Donc c'était aussi ce fait de pas lasser le public avec une répétition d'exploit, quoi. Il trouvait ça. Et puis techniquement, ça a été difficile. Par exemple, la chute qu'on a fait avec Bruno Chardin dans l'aile froide, ça c'était plutôt un problème cinématographique. Comment donner le mouvement, l'angoisse, la vitesse, alors qu'il y a dans le bande dessinée c'est statique. Et je voulais pas faire un truc à la manga avec un excès, une caricature. Donc voilà, il a fallu que je dose ça assez bien. Et je pense que dans le cadre de la chute dans l'aile froide, ça fonctionne. Je pense que les gens ont un petit peu peur là, quand même.
Ça vaudrait la peine de grimper tout là, voir s'il y a un signe, si c'est bien sûr que c'est ça la piste. Le doute existe, personne n'éclaire la nuit. À la piste, le doute existe, mais faut bien choisir sa vie. Enterrez-le, et si
peintre maudit, laid, fascinant et repoussant, réaliste affreusement, visionnaire inspiré.
Soutine avait un acharnement qui était certainement, il peignait avec beaucoup plus de peine que Modigliani, il n'y avait pas cette aisance italienne, et souvent un très beau Soutine est le résultat d'une rogne poussée à l'extrême, et avec toutes les reprises, il était toujours insatisfait et jamais content. Piétinait ses tableaux dans sa chambre. Quand il envoyait des toiles du midi, Sborowski était obligé de les passer à la cuisine, les frotter au savon noir. Il s'en servait comme tapis.
Ce n'est ni Chagall, ni Soutine, ni Manekatch qui ont inventé de donner cet aspect de cataclysme au paysage. Presque tous les Russes qui, depuis que la littérature et la peinture russe existent, ont eu ce goût non pas du désordre mais du tourment, ce goût de la violence, ce goût d'apocalypse, n'est-ce pas? Tandis qu'ils ont donné véritablement, ils se sont ouverts le ventre, ils se sont ouverts le cœur, ils ont mis sur leur toile leur âme, leur fameuse âme russe tourmentée.
Jean-Marc Rochette, on écoute ici une archive où il y a plusieurs témoins qui ont connu le peintre Chaïm Soutine en 1958 parler. Et Soutine, c'est quelqu'un qui revient très très souvent dans cette bande dessinée, notamment dans la première planche où vous vous représentez enfant en train de vouloir toucher la peinture, une peinture qui est au musée de Grenoble, qui est le quartier de Bœuf de Soutine. Et il y a cette idée d'emblée, au seuil de cette bande dessinée, d'un rapport tactile, presque charnel, en tout cas à la peinture. Pourquoi vous avez commencé par ça ?
Il y a deux choses. Moi, pour moi, la peinture, c'est l'art de la matière avant tout. Hein, c'est la photo a une représentation parfaite, mais avec des pixels et du. Tandis que la peinture, il faut prendre de la matière qui sort des tubes. C'est dégueulasse, ça sèche, ça coule, etc. Et ça ressemble beaucoup à la montagne en même temps. C'est la montagne, c'est pareil, c'est que de la matière, c'est de la matière qui coule, c'est de la matière qui sèche, et je me suis aperçu que dans la peinture, ce qui m'intéressait, c'est la matière, le travail de la matière. C'est pour ça que j'aime beaucoup des gens comme Rembrandt, qui sont des peintres de pâte, et donc Soutine, lui, c'était vraiment un type qui jouait là-dessus. D'ailleurs, pratiquement, chez Soutine, il n'y a aucun dessin. Je crois que j'ai vu un seul dessin de Soutine, qui est très faible d'ailleurs, et il prenait toute son aisance quand il était dans la matière elle-même, quoi. Et cette spiritualisation de la matière, on va dire, c'est deux choses que je ressens chez Soutine et dans la montagne. Donc, il y avait le côté aussi enfant, je l'ai pas perçu, mais il y a le côté vertical des tableaux le côté vertical de la montagne. Et dans Soutine, on sent que c'est une matière complexe hein, qui est fait à base de temps de séchage assez long, des repentirs, des glacis. Ce que tu retrouves aussi en montagne, parce que quand tu regardes la montagne de loin, elle est légère, il y a que la lumière qui tape dedans, mais quand tu grimpes, t'as le nez dessus. Donc t'as les doigts qui sont dessus, donc tu te mets en opposition, tu cherches des prises et tout ça. Et moi, quand je regardais ces tableaux, je regardais de très près, Soutine, j'avais le nez dessus, quoi. Je regardais un peu de loin, mais de loin, ça m'intéressait moins que de près, quoi. C'est surtout regarder de près. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'affection pour un peintre qui s'appelle Michel Frère, un peintre belge, malheureusement, qui a à peu près mon âge, mais qui est mort, malheureusement, très jeune, et qui faisait aussi une peinture très matérialiste, comme ça, très, très. J'ai fait une expo, d'ailleurs, avec lui, au musée Géo-Charles des Chirolles. J'étais très fier de pouvoir montrer cette peinture qui est oubliée, malheureusement. Alors que c'est un peintre formidable. Je l'avais vu une fois, j'étais dans une galerie à Paris. Guy Lénusneau, je crois, puis j'avais vu ce tableau, ça me laissait tout me laissait assez froid, puis je suis tombé là-dessus, j'ai eu la même impression que devant un Soutine, cette espèce de plongée dans la matière, là. Et je me suis dit, quand même, la peinture, ça a quand même du sens, même à une époque des ordinateurs et tout ça.
Et vous dressez un parallèle assez net entre le fait de grimper la montagne. Bah,
dans
et
mon
celui
cas,
de
oui, parce que
la
je
ne
fais pas trop la différence. Il y a dans les dessinateurs, enfin, que ça soit en peinture, en peinture de montagne ou en dessin de montagne, c'est assez rare. Chez nous, on a, dans le Dauphiné, on a un peintre qui s'appelle l'Abbé Guétal, qui est un peintre très connu, et puis Achard, qui ont fait des tableaux très beaux. Il y a Hodler, hein, puis en Suisse, mais c'est assez peu de gens ont peint. Et la bande dessinée, ça a été fait assez peu. Une des meilleures scènes pour moi que j'ai vues en bande dessinée, c'est celle de Hergé dans Tintin au Tibet, quand le capitaine Haddock pend au bout de sa corde. Et alors, j'ai su par Benoît Peters qu'il avait eu une longue discussion, je crois, avec Hergé, parce que c'est tellement juste, la scène est tellement juste. D'habitude, quand les gens font une scène de montagne, ça fait toujours sourire un peu les alpinistes, parce que c'est complètement faux. Mais là, tout est vrai, la façon dont Tintin tient la corde, que ça lui fait mal au dos, que l'autre pend, il essaye de se balancer au bout de sa corde pour essayer de rechoper le rocher, tout ça est juste. Et en fait, c'est Herzog et Hergé.
On vous voit aussi, puisque c'est une BD autobiographique qui retrace votre parcours, étudier l'histoire de l'art à un moment. Et on entend une critique formulée à l'encontre de l'histoire de l'art. En gros, vous vous ennuyez à l'université. Et on peut pas, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre voix de maintenant, du Jean-Marc Rochette de maintenant, critiquer quelque chose à l'encontre du savoir académique, en tout cas sur la peinture, et l'idée que la peinture, c'est quelque chose qui relève beaucoup plus du tactile, de quelque chose de physique. Et est-ce que vous diriez en ce sens que c'est plus la montagne qui vous a formé plutôt que l'histoire de l'art ?
L'histoire de l'art, comme il est présenté, c'est présenté par des littéraires, donc qui amène un côté littéraire à la peinture. Par contre, moi, ce qui m'a formé, c'est les peintres. qui n'étaient pas forcément des littéraires. Quand je vois Rembrandt, quand je vois les... Donc je suis très impressionné par l'histoire de l'art, mais surtout par les peintres qui ont fait l'histoire, quoi. C'est pas vraiment pareil. Et surtout, j'ai jamais été vraiment un intellectuel. Moi, quand je suis quand même quelqu'un qui avait besoin de mettre les mains dans le plat, et puis là, qui avait besoin de la montagne, il faut que je monte dessus pour l'appréhender. Et la peinture, il a fallu que j'en fasse moi-même pour avoir une idée dessus. Autrement, j'arrivais pas à l'intellectualiser. J'ai beaucoup de mal pour ça. Il faut que je fasse les choses. Donc, en ça, ça peut se ressembler, parce que il y a ceux qui regardent les montagnes de loin, puis il y a ceux qui montent dessus, quoi. Il y a ceux qui parlent de la peinture, et puis il y a ceux qui la font, quoi.
Elle froide, c'est aussi une grande bande dessinée, j'ai trouvé, sur la question de la vocation. Et la vocation, si on revient à l'origine, ça veut dire l'appel. Et il y a vraiment cette idée que vous avez été à la fois appelé par la montagne et aussi appelé par la peinture. Est-ce que c'est comme ça que vous avez ressenti les choses?
Pour la montagne, c'est sûr que l'appel, je sais exactement quand ça s'est passé. C'était au col du Jobernet et j'ai vu les bancs par la tranche. Et j'ai eu une forme de transe. C'est-à-dire que il fallait que je monte là-haut. Alors j'en avais pas les moyens, mais c'était un appel, véritablement un appel. Et pour la peinture, c'est vrai que le bœuf écorché de Soutine au musée de Grenoble, c'est une chose qui m'a toujours fait penser que la peinture avait du sens malgré tout. Et d'ailleurs, un peintre que j'aime beaucoup, de Koning, l'américain, enfin le hollandais d'origine, mais américain, il parle de Soutine aussi avec énormément de conviction. C'est ces gens qui vont au point où un art a un sens véritablement. C'est-à-dire qu'il peut pas être fait par un autre. C'est-à-dire on ne peut pas rendre ce que fait de Koning par la photographie ou par la sculpture ou par la poésie ou par le dessin même. De Koning ou Soutine, c'est des gens qui peignent parce qu'il faut qu'ils peignent. C'est-à-dire que et puis dans le mot peinture, il y a un mot qui est très important, c'est le mot peinture lui-même. C'est-à-dire qu'il faut utiliser de la peinture. Et ces gens-là ont compris la puissance qu'il y avait dans ce mot et dans cet acte-là, quoi. Quand je regardais ces peintres-là, j'ai un appel aussi en me disant ça a du sens, quoi. Ça a du sens, comme disait l'autre, pourquoi on grimpe sur la montagne parce qu'elle est là, et pourquoi on fait de la peinture parce qu'elle est là aussi, quoi.
Là, je me sens chez moi. Et puis, pour un dessinateur, c'est quand même génial, parce qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer à dessiner chaque brin d'herbe, chaque caillou. Hein, tout est fait, c'est le papier, blanc comme le papier. Ce qui est intéressant dans les paysages de neige, c'est qu'en fait, tous les plans horizontaux disparaissent, parce qu'ils sont recouverts de neige. Seuls restent les plans verticaux. C'est une pure suggestion. Le lecteur comprend très bien que... La neige étant blanche, je vois pas ce qu'on pourrait dessiner, si ce n'est le sapin ou le rocher, etc. Ça sert à rien de tout dessiner, chaque détail, parce que le lecteur n'a plus de place, il étouffe sous les informations, c'est ennuyeux, c'est scolaire, alors que dans la suggestion, le lecteur y participe d'une manière spontanée, il n'y a aucune réflexion de la part du lecteur, aucun travail de sa part, mais spontanément, il complète ce qui a été juste suggéré, et je pense que ça crée une relation plus intime entre le lecteur et l'album. Mais j'essaye de m'inspirer, de parler de ce que je connais un peu. C'est toujours lié à des choses vécues ou observées, si possible. Je trouve que on parle bien de ce qu'on connaît bien. C'est en connaissant bien un sujet que l'imaginaire peut se développer, alors que si je connais mal au début, avant d'être allé dans l'Himalaya, j'avais toujours peur de me tromper, donc mon imagination était bridée par cette crainte de dessiner des trucs tout faux, hein, pas croyables. Et en allant sur place, en connaissant un peu la région, je me suis aperçu que mon imagination pouvait mieux s'envoler, imaginer plein de choses.
Jean-Marc Rochette, c'est la voix du dessinateur Cosset qu'on entend ici. Il parle de représenter les paysages de neige et de cette place du coup qui est laissée au lecteur pour l'imagination. Est-ce que c'est comment vous recevez ces paroles?
Bah, c'est tout à fait vrai. La neige, représenter la neige par son couvert, c'est très subtil. Donc j'imagine que on a vu ça chez Monet qui arrive à rendre des choses presque intangibles, ou les Chinois. C'est tout à fait vrai. Là, c'était moins mon sujet, puisque c'est quand même des petits guerriers qui sont dans le rocher. Et donc, j'ai appuyé les formes. Mais il a tout à fait raison. Il y a une poésie Moi, j'ai fait quelques aquarelles. Les aquarelles de paysages de montagne, et de neige, c'est très difficile parce que si on met rien, il y a vraiment rien. Et donc, il faut capter toute cette vibration subtile qu'il y a dans des paysages de neige. C'est très très complexe. Il y a quelques Chinois qui y arrivent. Il y a Samivel quand même malgré tout. Samivel a fait des aquarelles superbes. Quand j'étais enfant, il y avait la fameuse affiche de la compagnie des guides de Chamonix avec cette espèce d'arête. Et alors on disait qu'il l'utilisait parce qu'il y avait un gros. On savait pas trop comment il faisait ça. C'était un petit mystère. Alors d'après ce que j'ai compris, il travaillait avec du coton. Il faisait de l'aquarelle avec du coton pour avoir cette espèce de vibration cotonneuse de la neige, quoi. Et il y arrivait très bien. Hein. Moi, j'ai moins de facilité. Il me faut quand même plus de. Il faut que la lumière accroche plus, quoi. J'ai besoin de. Je vais toujours chercher des contrastes un peu forts, par exemple des bleus. Là, j'ai fait des aquarelles de lacs de haute montagne. Et c'est vrai que là, je me régale parce que le lac de haute montagne a une puissance dans les verts. Et alors, on peut avoir de la neige sur le côté, mais le lac lui-même, il donne il fait donner des trompettes, quoi, quand même. Donc et puis il y a une profondeur, ça c'est un vrai plaisir à l'aquarelle, aller chercher. Enfin, photographique c'est magnifique, ça, on l'a tout de suite. Mais à l'aquarelle, on met de la matière et l'aquarelle c'est quand même de la. Quand on touche l'aquarelle sous ses doigts, on sent la pierre un peu, on sent le minéral qui est très léger. Il y a moins de par rapport à l'huile c'est très épais, mais la matière de l'aquarelle c'est pareil, on sent qu'elle vibre là. Et on arrive à faire des choses très intéressantes dans les bleus émeraudes et tout ça quoi. Là, j'ai hâte parce que l'hiver s'en va, je vais bientôt remonter chez moi et j'ai repéré deux trois lacs que je vais aller un petit peu visiter pour voir si le verre a pas baissé, là, mais à mon avis non.
Kosei parle aussi de la place du lecteur et de la place que lui il accorde au lecteur en lui laissant une grande liberté. Tout à l'heure vous disiez qu'il s'agissait pour vous de créer du suspense en tout cas et de créer de la tension dans la scène d'escalade pour le lecteur. Est-ce que vous laissez aussi cette place à l'imagination? Est-ce que vous y pensez quand vous composez votre bande dessinée?
Ah non, là je crois que j'ai pris les gens par la main et je les ai pas du tout lâchés, quoi. Donc il y a peu de moments contemplatifs. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui le disait, il y a très peu de grands scopes en fait, hein. Je me suis beaucoup intéressé aux gens en fait, je crois là-dedans. La montagne est un peu secondaire, enfin elle est là, mais c'est le décor à des histoires humaines. Parce que par exemple, je prends le cas de Jean-Claude Zartarian qui est mort à 17 ans et qui à mon avis était le meilleur grimpeur de Grenoble. J'ai un ami qui est maire de la Grave et il avait une lettre encore de Zartarian dans sa poche, et juste la semaine avant où il est mort, il a dit qu'est-ce que Grenoble est sale. Il avait 16 ans, 16 ans et demi, et je peux vous dire qu'il écrivait pas souvent, Zartarian. C'était un gars de la banlieue de Grenoble. Écrire, c'était déjà... Mais ce rapport à ce « qu'est-ce que la ville est sale ?» en contraste de « qu'est-ce que la montagne est propre ?» C'est une chose qui m'a intéressé à montrer à quel point les certains grimpeurs, et surtout jeunes, ils ont une quête d'espèce de liberté dans une société qui ne leur donne pas. Parce que dans le cas de Zartarian, je pense qu'il était parti pour être... pour être ouvrier ou je ne sais quoi, quoi. Il voulait pas ça, quoi. Donc il y avait une époque où c'était punk et lui rêvait d'être un grand grimpeur. Je pense à lui parce que cette lettre-là m'a beaucoup touché, en fait. Je savais même pas qu'il écrivait, Philippe Zartarian. Et pourtant, c'est une très belle lettre, quoi.
Et Zartarian, il fait partie de gens qui ont certainement existé, qui sont donc dans cette bande dessinée et qui ont disparu à la montagne. Est-ce que pour vous l'enjeu c'était aussi de rappeler la mémoire de ces gens-là?
Ah mais clairement, pour Zartarian, il est mort à 17 ans et ses parents étaient âgés, donc il ne reste rien de lui. Et l'anecdote, c'est que j'ai un des amis qui a appelé sa maman et elle a dit oh oui, j'ai eu un fils, mais c'était il y a longtemps. Donc voilà, et Sampé c'est pareil, il était fils unique, donc ceux-là ont disparu. Mais une autre anecdote, je signais à la librairie Gallimard et je vois quelqu'un, le premier dans la queue là, c'était quelqu'un qui avait une doudoune. Je me dis tiens, c'est curieux, qu'est-ce que Gallimard là. Et il me dit je tenais à vous voir parce que j'ai lu votre livre et je suis tombé sur la scène de la mère qui vient me voir et qui me demande si son fils a des chances de s'en sortir. Et je savais pertinemment que cet enfant, parce qu'il avait mon âge, il était 56, il m'a donné l'âge de... Il s'est tombé dans une rimée et il m'a dit, c'était mon meilleur ami, c'était le fiancé de ma sœur, et cette dame que vous avez parlé, c'était sa mère qui vient de mourir. Et donc il est monté là-haut pour passer pour mettre une plaque, et j'ai dit, bah, quand il est venu me parler de ça,
ce livre, hein,
parce que je me suis dit, bah, voilà, je pense à ce gamin qui est tombé dans cette rimée, et voilà, il reste rien, sauf des souvenirs sur certaines personnes. Et là, là, il existe. Son histoire est pas... J'aime peut-être un peu de ça dans ce livre, c'est de faire vivre des gens qui auraient totalement disparu. En plus, lui, dans son cas, son corps a pas été rendu. Parce que le glacier est tellement haut, et lui, il était dans la rimée supérieure. Et donc, cette personne va de temps en temps au pied. C'est très romanesque. Il a retrouvé, pour l'instant, son sac, je crois. Mais le corps, lui, est toujours enfoui, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Elfroide. C'est parler de choses comme ça, un peu dures, mais en même temps très, très belles, finalement, quoi. Enfin, je trouve.
Il y a une certaine sagesse, en tout cas dans ce rapport à la mort, où on se dit que les gens disparaissent, enfin sont happés à un moment donné par la montagne, mais en tout cas, à chaque fois que vous grimpez et que vous représentez des scènes d'escalade, c'est là. Enfin, cette possibilité-là existe.
Montagne, c'est moi, chaque fois qu'on part, c'est chaque pas est important. Chaque grimpeur le sait. C'est un acte extrêmement poétique et extrêmement matérialiste. C'est-à-dire, il faut avoir conscience de son corps. Il faut savoir que même sur un sentier, sur une sente, sur un endroit, il faut toujours être là. Et en même temps, on est dans une espèce de on cherche quelque chose, quoi. Oui, on est toujours sur le qui-vive, et puis on est entouré par la beauté du monde. C'est une chose que j'adore, c'est ce rapport de la présence, mais on l'a aussi en peinture. Pour revenir à la peinture, quand on peint, il y a des problèmes techniques à résoudre, et en même temps, si on est complètement bloqué par la matière, c'est terrible. Si on se laisse happer par des grandes envolées lyriques, et ben en montagne on se fout en l'air, et en peinture on fait de la merde. Vous voyez, il y a un double rapport comme ça entre l'exigence et tout ça. Et en montagne c'est très clair. Enfin, montagne là pour le coup c'est très très clair. Chaque fois que je mets mes chaussures, je sais que je vais faire attention. J'ai 5-6 heures à être bien présent là, bien.
Merci, Jean-Marc Rochette. Votre album Elfroide Altitude 3954 est publié aux éditions Casterman. Par les temps qui courent, on monte, on descend.
Ah, on descend.
Par les temps qui courent, où regarder le soleil se lever?
À l'est.
Par les temps qui courent, quel livre garder constamment ouvert?
Je sais pas si c'est un livre. Mais si je devais prendre un seul livre, je dirais... Ulysse, l'Odyssée.
Tonight we fly over the houses, the streets and the trees, over the dogs down below. They'll bark at our shadows as we float by on the breeze. Tonight we fly over the chimney tops.
Les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le metteur en scène Gwenaël Morin. Ce soir au son, c'était Philippe Mercher, Olivier Guérin à la réalisation, Jeanne Aléos, Oriane Delacroix et Corinne Amar pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Oh,
disappointed or sad.